Section 3. Assemblée générale annuelle 2018. Le 28 mars 2018. Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle 2018, jeudi 21 juin 2018 de 13h à 16h30 au centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie, 1700 rue Amherst à Montréal. Chers membres, par la présente, nous vous convoquons à la 38e Assemblée Générale Annuelle d'Execo qui se tiendra le jeudi 21 juin 2018 de 13h à 16h30 au Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie au 1700 rue Amherst, à Montréal. Notez qu'un souper offert par Execo vous sera servi à la suite de la levée de l'Assemblée vers 17h. Il est prévu que celui-ci soit terminé à 18h. À cet effet, vous trouverez 6 juin l'ordre du jour de cette Assemblée. Aux fins d'organisation, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir informer dans les meilleurs délais M. Yves Marino par courriel à ymarineau@execoexaequo.net ou par téléphone au 514-288-3852 poste 223. De votre présence au plus tard le mercredi 16 mai 2018, afin qu'il puisse prévoir le souper en conséquence. Si vous avez besoin que nous réservions pour vous le TA, si vous désirez le rapport annuel en format audio standard ou audio MP3, si vous avez besoin d'un interprète oraliste ou gestuel. Suite à votre inscription, nous vous ferons parvenir le rapport annuel 2017-2018. Nous vous demandons d'en prendre connaissance avant l'Assemblée générale annuelle afin de préparer vos questions et vos commentaires. Une fois encore, nous comptons sur votre fidèle participation à cette Assemblée, rouage essentiel au bon fonctionnement d'Execo. En espérant vous y voir nombreux, nous vous prions, chers membres, d'accepter nos respectueuses salutations. Signature au document officiel, Dominique Marsan, présidente du Conseil d'administration. Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2018. Assemblée générale annuelle d'Execo, jeudi 21 juin 2018 de 13h à 16h30 au centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie 1700 rue Amherst à Montréal. Ordre du jour. 1. 13h, accueil. 2. 13h30, mot de bienvenue. 3. 13h35, nomination d'une présidente, président, ou d'une secrétaire d'assemblée. 4. 13h40, vérification du quorum. 5. 13h43, lecture de l'avis de convocation. 6. 13h45, lecture et adoption de l'ordre du jour. 7. 13h50, adoption du PV de l'Assemblée générale du 21 juin 2017. 8. 14h, mot de la présidente du conseil d'administration. 9. 14h05, mot de la porte-parole jeunesse. 10. 14h10, ratification des actes des administrateurs et des décisions prises durant l'année d'exercice. 11. 14h15, rapport de la trésorerie et de l'auditeur. 12. 14h25, prévision budgétaire 2018-2019. 13. 14h40, nomination d'un auditeur. 14h45, pause. 14. 15h, dépôt et adoption du rapport d'acte 2017-2018 et du plan de travail 2018-2019. 15. 15h30, conseil d'administration 2018-2019. Nomination d'un ou d'une président-présidente ou d'une secrétaire d'élection. Mise en candidature. Élection des administrateurs. 16. 16h10, autre question. 17. 16h30, levée de l'Assemblée. Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 juin 2017. Assemblée générale annuelle d'Execo, mercredi 21 juin 2017, de 13h à 16h30 au centre Pierre Charbonneau 3000 rue Viau à Montréal. Ordre du jour. 1. 13h, accueil. 2. 13h30, mot de bienvenue. 3. 13h35, nomination d'une président-présidente et d'une secrétaire d'Assemblée. 4. 13h40, vérification du quorum. 5. Lecture de l'avis de convocation. 6. 13h45, lecture et adoption de l'ordre du jour. 7. 13h50, adoption du PV de l'Assemblée générale du 21 juin 2016. 8. 14h, mot de la présidente du conseil d'administration. 9. Ratification des actes des administrateurs et des décisions prises durant l'année d'exercice. 10, 14h15, rapport de la trésorerie et de l'auditeur. 11, prévision budgétaire 2017-2018. 12, nomination d'un auditeur. 13, 15h, dépôt et adoption du rapport d'activité et du plan de travail 2017-2018. 14, 15h30, conseil d'administration 2017-2018. Nomination d'un ou d'une présidente, président, et d'un ou d'une secrétaire d'élection. Mise en candidature, élection des administrateurs. 15, 16h10, autre question. 16, 16h30, levée de l'Assemblée. Membres présents. Anne-Marie Allaire, Chantal Barbier, Serge Bédard, François Bourbonnière, Anne Buy, Michel Charpentier, Joanne Chiasson, Patrick Desjardins, Martin Dion, Lise Dugas, Zelma Gaizy, Claude Gariepi, Marc Gauthier, Jean Gendron, Caroline Goyette, Martin Junot, Sophie Lanctot, Caroline Lapensée Savaria, Claude Leviavant, Gaëtan Léger, Robert Longtin, Dominique Marsan, Maud Massicotte, Louis Moses, Jody Néglet, Paul Sylvie Nkendo, Éric Parisot, Lise Pigeon, Claude Prévost, Ginny Racine, Christian Ridard, Dominique Riel, Serge Robitaille, Lisa Serralio, Marie-Hélène Tanguet, Caroline Théberge. Employés présents. Jessica 5 mars, Rose-Marie Vaquil, Simon-Philippe Caron, Luc Forget, Yves Marino, Benoît Rassette, Geneviève Guernier, Marie Turcotte. Préposés. Ashley Farvac, Edgar Porras, Nassera Loualalen, interprète oraliste, Nathalie Deroy, Joël Saint-Pierre, invité, Mathieu Franqueur. Accueil. 1. Mot de bienvenue. Le vice-président, François Bourbonnière, en remplacement de la présidente Dominique Marsan, ouvre l'Assemblée et souhaite la bienvenue à cette 36e Assemblée Générale d'Execo à l'ensemble des participants à 13h41. 2. Nomination d'un ou d'une président-présidente et d'un ou d'une secrétaire d'assemblée. Proposition AGA 21601. Il est proposé par Anne-Marie Allaire, appuyée par Patrick Desjardins, de nommer Mathieu Franqueur et Benoît Rassette, respectivement président et secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité. Mathieu Franqueur rappelle brièvement les règles de fonctionnement d'une assemblée générale. Il rappelle notamment que les personnes qui souhaitent prendre la parole doivent lever la main et attendre le micro pour être entendues par l'ensemble des participants. Le président d'assemblée indique aux participants que si, au terme d'une proposition, personne ne demande le vote, celle-ci sera alors adoptée à l'unanimité. 3. Vérification du quorum. Le président rappelle à l'Assemblée que, selon l'article 21 des règlements généraux d'ex-Eco, le quorum est fixé à 10% des membres actifs. Ex-Eco, comptant 192 membres, le quorum est fixé à 19 personnes. Comme 30 membres actifs avec droit de vote sont présents à l'ouverture de l'Assemblée, le quorum est atteint et l'Assemblée peut donc commencer. 4. Lecture de l'avis de convocation. Comme la procédure l'exige, Mathieu Franqueur fait la lecture de l'avis de convocation et souligne que, selon l'article 19 des règlements généraux, l'Assemblée générale annuelle doit avoir lieu dans les 4 mois suivant la fin de l'exercice financier. Puisque celui-ci s'est achevé le 31 mars 2017, l'Assemblée se tient bien dans les délais prescrits par les règlements. De surcroît, toujours selon l'article 19 des règlements généraux, tous les membres de l'organisation doivent être convoqués par écrit au moins 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle. L'avis de convocation étant daté du 1er mai, le délai a été respecté. Cet avis de convocation est donc considéré comme valide. 5. Lecture et adoption de l'ordre du jour. le président de l'Assemblée fait la lecture de l'ordre du jour tout en soulignant que le point « autre question » reste ouvert. Proposition AGA 210602. Il est proposé par Claude Prévost, appuyé par Marc Gauthier, d'adopter l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité. 6. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 juin 2016. Proposition AGA 210603. Il est proposé par Marc Gauthier, appuyé par Caroline Goyette, d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 juin 2016. Adopté à l'unanimité. Lise Pigeon invite à prendre connaissance à la page 23 et spécifiquement la proposition 160603. À la demande de Pierre-Yves Lévesque, Brigitte Nadon lit son allocution. Lise Pigeon demande s'il est possible d'obtenir copie de cette allocution. Marie Turcotte rappelle que l'allocution a été envoyée à tous les membres d'Execo par le truchement de l'infolettre. Conséquemment, ce n'est pas seulement les membres présents à l'Assemblée générale qui l'ont reçue, mais bien tous les membres. Lise Pigeon pointe ensuite, en page 24, « Monsieur Guy Simard suggère qu'on liste l'ensemble des résolutions. Lise Pigeon demande à ce que cette liste soit accessible à l'ensemble des membres. Madame Marie Turcotte informe l'Assemblée que cette liste est disponible. Lise Pigeon demande où il est possible d'avoir accès à cette liste. Marie Turcotte indique qu'en réponse à cet engagement, des cartables dans lesquels sont consignées les décisions prises par les administrateurs durant la dernière année circulent, et ce, pendant l'Assemblée. Lise Pigeon rapporte aussi à propos du point « Rapport de la trésorerie et de l'auditeur » à la page 26. « Monsieur Marino rappelle que nous verrons le budget après, et pour la rassurer, il informe qu'une réorganisation d'Execo et la recherche de nouvelles sources de financement devraient permettre à l'organisme de surmonter cette importante coupure. » Lise Pigeon demande ce qui a été fait pour répondre à la situation de déficit de l'année d'exercice précédente. Marie Turcotte invite Lise Pigeon à patienter puisque ces informations seront présentées lors du point suivant de l'actuel ordre du jour, rapport de la trésorerie et de l'auditeur. Marie Turcotte indique d'emblée qu'il y aura de bonnes nouvelles. 7. Mot de la présidente. Dominique Marsan, qui a vécu un bris d'aide technique, s'excuse par le biais d'un écrit de son absence à l'Assemblée. Mathieu Franqueur fait la lecture du mot de la présidente du conseil d'administration, aussi disponible dans le rapport annuel 2016-2017. 8. Ratification des actes des administrateurs et des décisions prises durant l'année d'exercice. Mathieu Franqueur rappelle que ce n'est plus nécessaire, d'après la loi, de procéder à la ratification des décisions des administrateurs. Execo souhaite par ailleurs maintenir cette pratique. Le cahier des décisions circule depuis le début de l'Assemblée pour être consulté par les membres qui le désirent. Mathieu Franqueur demande à l'Assemblée si le vote est nécessaire. Lise Pigeon demande le vote. Proposition AGA 210604. Il est proposé par Patrick Desjardins, appuyé par Caroline Goyette, de ratifier les actes et décisions des administrateurs pour l'année d'exercice 2016-2017. Pour 23, contre 1, abstention 1, adopté à la majorité. 9. Rapport de la trésorerie et de l'auditeur. Yves Marino et Caroline Lapensée-Savaria sont invités à présenter le rapport de l'auditeur. Claude Prévost intervient et suggère qu'on précise à chaque fois les pages du document pour favoriser la lecture du rapport de l'auditeur. La présidence accueille la suggestion. Caroline Lapensée-Savaria, trésorière du conseil d'administration, fait la lecture du rapport de l'auditeur indépendant ainsi que des états financiers. Yves Marino, comptable chez Execo, appelle les questions sur les états financiers. Question. Anne-Marie Allaire remarque la grande diminution du poste des produits, dont de l'année dernière, qui semble faire la différence. Elle demande des explications. Réponse. Yves Marino précise que, tel qu'indiqué l'année dernière, la très grande majorité de ses dons provenait d'une seule fondation privée qui a annoncé qu'elle ne nous soutiendrait plus à partir de l'année financière 2016-2017. On remarque qu'en 2015-2016, le don de 40 000 dollars habituellement consenti a été bonifié par un don supplémentaire de 25 000 dollars pour aider à la transition. Ce n'est pas une surprise, on savait que le montant des dons serait beaucoup plus petit cette année. Question. Claude Prévost pointe le projet de banque de préposés et demande des précisions sur la diminution du poste de revenu entre 2016 et 2017. Réponse. Yves Marino rappelle qu'il s'agissait d'une enveloppe fixe d'une subvention reçue et qu'elle était, il y a 4 ans, de l'ordre de 60 000 dollars. Cette enveloppe n'est pas entièrement dépensée. Et Yves Marino précise qu'il reste environ 10 000 dollars à dépenser pour ce projet. Question. Claude Prévost demande ce qu'il adviendra dans l'éventualité où ce montant n'est pas dépensé en 2017. Réponse. Yves Marino explique que ces sommes sont exclusivement réservées pour le plan de développement de la banque de préposés et reportées à l'exercice suivant, si non utilisées. Question. Claude Prévost demande s'il y a un risque de perdre d'autres sommes ou subventions si cet argent est encore reporté. Réponse. Yves Marino dit que non. Il s'agit d'une subvention non récurrente versée par l'ancienne Agence de la Santé et des services sociaux pour le projet particulier de plan de développement de la banque de préposés. Et ce projet ne peut pas être renouvelé. Question. Dominique Riel. L'entretien de local, qui représentait 168 dollars l'an dernier, n'est pas renouvelé. Est-ce que le local ne sera pas entretenu? Réponse. Yves Marino. Ce montant de 168 dollars est en fait le montant dépensé pour la peinture de la salle de conférence et représente une dépense non récurrente. Le montant pour couvrir le salaire de la personne qui vient faire le ménage et qui vient aux 2 semaines est inclus dans la masse salariale. Question. Lise Dugas. Qu'est-ce que la perte sur radiation d'immobilisation corporelle et l'amortissement des immobilisations corporelles? Réponse. Yves Marino spécifie que cette perte sur radiation corporelle est en fait un bien, un portable, qui avait encore une valeur au livre de 200 dollars et qui a été radié des livres. Pour ce qui est des amortissements, quand on achète un actif, supposons l'achat d'un photocopieur qui coûte 10 000 dollars, on diminue sa valeur après une année. Par exemple, on pourrait prévoir un amortissement de 20%. En somme, la première année, l'amortissement sera de 2 000 dollars. L'amortissement est l'usure du matériel déduit à chaque année dans les livres. Question. Dominique Riel demande que représente l'augmentation de loyer mensuellement, considérant qu'on a 25 540 dollars comme dépense annuelle en 2016 et 26 306 dollars en 2017. Réponse. Yves Marino précise que ce n'est pas un gros montant, estimé à environ 700 dollars annuellement et environ 50 dollars par mois. Il en profite pour signaler la signature d'un nouveau bail assorti de 0 dollars d'augmentation en 2017-2018. Suivront 2 augmentations annuelles de 3%. Question. Dominique Riel. 3%? Est-ce acceptable? Réponse. Yves Marino. Pour un bail commercial, c'est acceptable. Question. Claude Prévost. Qu'est-ce que veut dire entretien et location d'équipement? Réponse. Le gros du montant représente l'entretien de la photocopieuse. Yves Marino fait ensuite la présentation du bilan. Proposition AGA 210605. Il est proposé par Caroline Goyette, appuyée par Patrick Desjardins. D'adopter le rapport de la trésorerie et de l'auditeur tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 10. Prévisions budgétaires 2017-2018. Yves Marino présente les prévisions budgétaires pour l'année 2017-2018. Question. Claude Prévost s'inquiète du déficit qui ne devrait pas être résorbé. Réponse. C'est un déficit qui était prévu. Ce dernier est réservé, 20 000 dollars, pour le site internet et pour l'image de marque. Marie Turcotte propose aussi d'autres éléments d'explication. Supposons qu'on a un projet personnel, le site web. On a 2 comptes, pour payer l'épicerie, notre compte chèque et notre compte d'épargne qui est pour le projet. on accumule à raison de 10 ou 15 dollars par semaine le montant pour le projet de site web. Quand on a le montant suffisant, on va acheter le site web, on prend l'argent amassé, 300 dollars du compte épargne, et on le dépose dans le compte chèque. C'est la même chose pour le cas d'Execo. Dans notre compte épargne, on a 100 000 dollars de surplus accumulé et on prendra 20 000 dollars pour le mettre dans le compte chèque afin de payer les dépenses pour les items, images de marque et site web. On demande davantage d'explications. Yves Marino propose un autre complément d'explication en utilisant comme exemple l'exercice de l'an passé où un déficit était planifié avec d'autres sommes réservées. Claude Prévost demande de nouveau « Pourquoi est-ce déficitaire ?» Sophie Langteau explique en usant de l'exemple de la dépense exceptionnelle, le site web, si cet argent n'avait pas eu à être dépensé, on aurait vu 0 $ au bas de la page. Le président d'Assemblée demande s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires concernant les prévisions budgétaires 2017-2018. Louis Moses demande le vote. Proposition A, GA 210606. Il est proposé par Anne Buy, appuyé par Christian Ridard, d'adopter les prévisions budgétaires d'Execo pour l'année 2017-2018 pour 32 contre 0, abstention 0, adopté à l'unanimité. 11. Nomination d'un auditeur. Monsieur Yves Marino suggère de choisir le même auditeur, soit la firme DHMSENC, comptable professionnel agréé. Le président de l'Assemblée invite les participants à poser leurs questions sur ce sujet. Il n'y a pas de questions. Proposition AGA 210607. Il est proposé par Martin Junot, appuyé par Michel Charpentier, de renouveler pour l'année 2017-2018 le mandat de la firme DHMSENC, comptable professionnel agréé. Adopté à l'unanimité. 12. Dépôt et adoption du rapport d'activité 2016-2017 et du plan de travail 2017-2018. Marie Turcotte fait la lecture du mot de la directrice générale. Le président invite les membres à consulter les recommandations de la journée d'étude des dossiers et accueille les commentaires, questions, recommandations ou corrections, rubrique par rubrique. Il fait d'abord la lecture de la rubrique « Action citoyenne et communication ». Claude Prévost indique qu'il aimerait aller à la ville de Montréal, conseil municipal, et que ça demande de la préparation. Il invite à la participation pour que plusieurs personnes y soient. Martin Dion invite à ce qu'on continue de se battre pour l'accessibilité universelle. Caroline Théberge n'a jamais fait ça, mais aimerait faire connaître Execo dans son arrondissement ou dans son immeuble pour que les gens connaissent mieux leurs droits et puissent mieux les défendre. Elle est volontaire pour promouvoir l'organisme et même parler en public. Marie Turcotte en profite pour rappeler qu'Execo a toujours besoin d'ambassadrices et que des pochettes d'informations sont disponibles. Geneviève Guernier, organisatrice communautaire, en assure la distribution. Jean Gendron, les gens connaissent peu Execo. Ils pensent aux autres, aux personnes qui n'ont pas d'handicap. Il faudrait du matériel ou des objets promotionnels. Marie Turcotte. Elle rappelle qu'il s'agit de l'une des raisons pour laquelle des pochettes sont disponibles et que toutes et tous sont invités à les diffuser. Execo travaille avec des organismes pour personnes en situation de handicap, mais aussi avec le grand communautaire. Il peut s'agir de bons lieux pour diffuser de l'information et faire de la promotion. Dominique Riel. Devant l'expression « activité pour joindre l'utile à l'agréable », Dominique Riel s'interroge sur la capacité financière pour tenir toutes ses activités en plus du parti des membres, des assemblées, etc. Le président demande si une réponse peut être formulée. Réponse. Yves Marino. Le budget doit bien sûr être respecté et il existe un poste budgétaire intitulé « Frais d'action citoyenne » et ce, pour les activités avec les membres. Réponse. Quelqu'un d'autre ajoute que le montant consacré est de 5 000 $. Réponse. Yves Marino. À ce 5 000 $, on ajoute 4 500 $ pour le parti des membres, plus le poste budgétaire repas. À son avis, il s'agit d'un bon budget pour les activités. Question. Martin Junot, à la lecture de cette section où on recommande de donner des formations au personnel de divers gouvernements et organismes, qui aura des interactions avec les personnes en situation de handicap, on se demande si Execo a l'intention d'en faire plus de ses activités de formation. Le président demande si une réponse peut être formulée. Réponse. Marie Turcotte. Les activités tenues dans le passé seront données de nouveau si demandées par les organismes. On pense ici à des organismes tels que l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées du Québec, AMEIPH, à qui on compte donner un certain nombre de formations, par exemple. Pour revenir à la proposition discutée lors de la journée d'étude des dossiers, il faut aller au-delà du milieu communautaire et présenter à des organismes publics comme la Ville ou l'Office municipal d'habitation de Montréal, OMHM, des formations sur les attitudes discriminantes. En somme, interpeller les gens qui œuvrent dans la fonction publique. Question. Jeudi Néglet. Concernant la dernière question, y a-t-il une stratégie chez Execo pour identifier les agences ou les services municipaux ou provinciaux qui ont besoin d'éducation ou de sensibilisation, par exemple, à la régie du logement? Jody Néglet a personnellement remarqué aucune compréhension de leur part de ce qu'est le handicap. Est-ce qu'il y a une stratégie pour les approcher, puisqu'il y a peu de chances que les organismes s'identifient eux-mêmes comme organismes ayant besoin de telles formations? Réponse. Marie Turcotte recadre les propositions en journée d'étude des dossiers, en précisant qu'elles viennent des membres et que la stratégie pourra être développée davantage. L'important à ce moment de l'Assemblée est d'intégrer ces recommandations au plan de travail. Il faudra alors prioriser ces activités et cette priorisation sera effectuée avec les membres à l'occasion des comités thématiques. Question. Jody Néglet souhaite valider si les recommandations sont le fruit des membres seulement. Réponse. Marie Turcotte confirme. Elle rappelle que les personnes ont développé ces recommandations en étant réunies en comité thématique lors de la journée d'étude des dossiers. En période de plénière, chaque secrétaire d'atelier présentait les recommandations. Question. Jody Néglet évoque la faiblesse de cette approche. Ça met beaucoup de poids sur les gens présents, sur les forces et faiblesses des gens présents ce jour-là. Et l'impact est important. Ça devient le programme d'une année. Il faudrait aussi ajouter les propositions des employés. Réponse. Marie Turcotte restitue aussi la place des employés dans l'élaboration du plan de travail. Les employés proposent, selon leurs responsabilités respectives, les objectifs annuels dans le rapport annuel. Ensuite, les membres du conseil d'administration proposent leurs commentaires et l'adoptent. Donc, en somme, le rapport annuel et son plan de travail a profité de l'apport des employés et des membres du conseil. La journée d'étude des dossiers, JED, a été créée il y a plusieurs années puisqu'en Assemblée générale, les membres n'avaient pas assez de temps pour approfondir les dossiers. La JED a été créée pour un surcroît démocratique dans le processus d'élaboration et d'adoption du plan de travail d'Execo grâce au dépôt de ses recommandations à l'AGA. Question. Jody Néglet. Les deux documents sont-ils intégrés? Réponse. Marie Turcotte. Oui. On les regarde en assemblée thématique par thématique et les membres peuvent de nouveau commenter. Nous passerons ensuite au vote. Anne-Marie fait remarquer que c'est une année électorale ou municipale et c'est un lieu pour intervenir. Elle invite à le faire dans les quartiers puisque c'est plus facile qu'en période non électorale. Patrick Desjardins propose d'adopter une perspective. Il faut dire oui à la lutte à la discrimination, mais oui aussi à la perspective de mettre de l'avant la participation citoyenne. Claude Prévost invite, quant à lui, à continuer de s'exprimer. C'est une question de démocratie. Le président fait la lecture de la rubrique « Santé et services sociaux ». Question. Lise Pigeon fait la lecture d'un extrait d'un communiqué envoyé le 5 septembre 2016 du réseau d'échange des comités d'usagers du Québec, RECUC, R-E-C-U-Q, sur la perte de pouvoir des usagers qui est indéniable dans la grande structure de la santé et des services sociaux. Serait-il possible de se joindre au RECUC, R-E-C-U-Q? Il n'y a pas de regroupement pour les comités d'utilisateurs de soutien à domicile. Réponse. Simon-Philippe Caron. C'est au sein d'un comité santé et services sociaux qu'on peut agir sur le soutien à domicile et qu'on peut mettre en place des actions. On continue à déployer des actions de mobilisation pour le SAD, S-A-D, cette année. Martin Dion a dit qu'il a participé à quelques COSS, C-O-S-S-S, et qu'il insiste pour que les heures coupées en soutien à domicile soient remises. Patrick Desjardins ajoute qu'il est important d'offrir des logements avec services assez grands pour les familles. Claude Prévost appuie la suggestion. Question. Lise Pigeon avait accepté qu'on mette de côté le dossier de la rationalisation par le docteur Barrette dans l'offre de culottes d'incontinence, défrayée par l'État, mais croit qu'il faut le remettre à l'ordre du jour. Elles sont plus étroites, plus difficiles à ajuster, unisexes, très standardisées. Une atteinte à la dignité. Réponse. Marie Turcotte précise qu'on s'est beaucoup attardé au dossier du soutien à domicile, mais que le dossier fourniture d'élimination fait aussi partie du plan d'action. Elle rappelle que la dernière campagne de mobilisation portait aussi sur la standardisation de l'offre des culottes d'incontinence. Il s'agissait d'un item du kit SAD, SAD, et aussi qu'on en faisait mention dans le communiqué et dans une des vidéos. Le président fait la lecture de la rubrique « Habitation ». Caroline Théberge fait état de la situation des 4,5 en HLM et des besoins des personnes qui ont des enfants. Elle pointe l'utilisation des matériaux qui sont souvent les plus cheap, l'aménagement qui n'est pas pensé en fonction des personnes qui ont des aides à la mobilité. Il y a des personnes qui vivent dans ces habitations et ils, elles, ne connaissent pas Execo. Elle souligne qu'il faudrait promouvoir l'organisme auprès d'eux. Patrick Desjardins conclut que ce n'est pas suffisamment grand à 4,5 pour les familles. Les parents en situation de handicap ont besoin d'espace pour leur équipement. Caroline Goyette rappelle que pour défendre les questions d'habitation, Execo participe beaucoup à des manifestations et revendique avec le FRAPRU, F-R-A-P-R-U. Caroline Goyette souhaite remercier Simon d'être là. On ne lâchera pas, on va en avoir des logements sociaux. Claude Leviavant reste dans un HLM. Les entrées et couloirs de son appartement ne sont pas assez larges et il accroche les murs. C'est aussi un problème. Le président invite à poursuivre puisqu'il a plusieurs thèmes à couvrir. Martin Dion insiste sur l'importance de réclamer plus de logements sociaux, des logements plus grands et l'option de l'étage, ne pas être seulement contraint d'habiter le rez-de-chaussée. Claude Prévost. Pour la participation au congrès du FRAPRU, F-R-A-P-R-U, il faut remercier Execo. Il appelle à continuer les occupations et signale la venue d'une autre occupation de terrain à venir. Jody Neglet aimerait qu'Execo ajoute la révision du processus de décision dans l'octroi de subvention du programme d'adaptation domiciliaire, le PAD, P-A-D. Réponse. Marie Turcotte confirme que le dossier sur le programme d'adaptation domiciliaire, PAD, figurera au rapport annuel. Par ailleurs, cette question précise n'est pas nommément inscrite dans le rapport, mais est implicite dans le dossier Montréal Métropole qui témoignera de nouveaux pouvoirs et responsabilités, notamment sur ces questions d'habitation. Christian Ridard dit être obligé de probablement déménager à cause de la taille de son quadriporteur et se fait refuser l'option de déménager à Longueuil. Il évoque la difficulté, notamment vécue par sa mère, d'avoir le choix d'un logement dans le système de l'OMHM qui allonge le temps d'attente quand on refuse un logement, même inadéquat. Caroline Théberge, en complément d'information, elle rappelle que l'Office municipal d'habitation de Montréal, OMHM, peut fournir des protège-murs, mais il faut en faire la demande en utilisant un formulaire. Le président fait la lecture de la rubrique « Transport ». Lisa Serralio demande d'ajouter comme participant Serge Bédard au compte-rendu sous la rubrique « Transport ». Il a été oublié. Marc Gauthier tient à préciser que les rampes défectueuses dont on parle dans le rapport de la GED, J-E-D, sont celles à l'arrière des autobus. Claude Prévost constate que les attaches dans les minibus, lorsqu'elles ne sont pas assez serrées, il est possible pour les chauffeurs de les tendre manuellement. Il serait nécessaire d'avoir la même possibilité, voire les mêmes attaches, dans les taxis-fourgonnettes. Claude Prévost a souvent été mal installé et son fauteuil bougeait parfois. Réponse, Marie Turcotte. La question figure dans la plateforme de revendication. Une rencontre est à prévoir avec la direction du transport adapté pour présenter chacune des revendications de la plateforme. Question. Martin Dion. Que va améliorer en matière de transport la création de l'autorité régionale de transport métropolitain, ARTM ? Réponse. Marie Turcotte confirme que l'ARTM est la nouvelle autorité, mais le transport à Montréal est toujours géré par la STM. Ceci dit, les tarifs des transports seront déterminés par l'ARTM. Par ailleurs, Marie Turcotte n'a pas plus d'informations à cet égard, puisqu'il s'agit de nouvelles structures. Martin Dion formule le souhait que les tarifs de transport adaptés ne soient pas plus élevés que le transport régulier. Réponse. Marie Turcotte. Ces tarifs sont par ailleurs protégés par le principe que le transport adapté est le même tarif que le transport régulier, et les ententes sont convenues entre Québec et les sociétés de transport. Jean Gendron. Rappelons la plage de 30 minutes, de retard acceptable, mais aussi un autre problème. La taille des fauteuils empêche l'accueil d'un autre passager, mais il n'est pas toujours possible de l'anticiper. Cette situation survient seulement au moment de l'arrivée du fauteuil et ça se traduit par un retard supplémentaire considérant l'attente d'un autre transport. Dominique Riel a eu une expérience récente en transport adapté par fourgonnette où elle est montée à bord avec son chien d'assistance. Le chien n'a accès à aucun ancrage. Joanne Chiasson constate qu'Execo a fait beaucoup de travail, et ce dans tous les comités. Il y a plusieurs situations en transport qui sont négatives mais aussi des positives. Merci beaucoup, Execo. Christian Ridard embarque tous les jours dans des fourgonnettes sans être attaché. Aujourd'hui, on lui a rétorqué « C'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. » Il a pourtant eu l'évaluation de plusieurs représentants de la STM qui confirment qu'il doit être seul en fourgonnette considérant la taille de son fauteuil. Dans ce dernier cas, il n'a pas de problème à être attaché. Caroline Goyette partage son expérience puisque son fauteuil motorisé est large et les récentes modifications l'obligent à avoir les jambes surélevées. Considérant cette situation, il n'est plus possible d'être attaché de manière sécuritaire dans une fourgonnette si elle est jumelée. Elle a expliqué cette situation et obtenu l'autorisation d'être transportée seule en taxi accessible. Le président fait la lecture de la rubrique « Vie municipale ». Lise Pigeon remarque que de nombreuses personnes en situation de handicap traversent la rue Rachel face à Habitation Pignon sur Roux vers l'épicerie Provigo sans emprunter les intersections. Elle mentionne qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident pour aménager une traverse. Marc Gauthier constate le même phénomène et dit qu'il manque une traverse pour piétons avec bande jaune. Marie-Hélène Tanguay, résidente du même édifice, annonce qu'il y aura bientôt une telle traverse. Plusieurs citoyens en font la demande depuis plus de 10 ans. Elle fait partie des personnes qui veillent au grain. Éric Parizeau. Il serait nécessaire de remédier au fait que plein de parcs ne sont pas universellement accessibles. Recommandation de la JED 2016. Jody Néglet avoue ignorer les règlements municipaux, mais déplore qu'encore aujourd'hui, en 2017, on construise des commerces qui ne sont pas accessibles. Réponse. Marie Turcotte rappelle que la ville a lancé cette année un programme d'aide à l'accessibilité des commerces. PAC. P-A-A-C. Le gouvernement du Québec a aussi débloqué un fonds de 8 millions pour favoriser la mise en accessibilité des commerces à travers le Québec. Marie Turcotte invite Sophie Lanctot pour mieux nous expliquer les obligations en vertu du Code de construction du Québec. Elle mentionne que ce dernier n'exige pas la construction d'un commerce accessible. Sophie Lanctot, en complément de réponse. Les petits commerces où il y a seulement un usage commercial et où, au deuxième étage, il y a des bureaux ou des logements, sont assujettis au Code de construction du Québec. Si ces derniers font des travaux majeurs, ils doivent être rendus accessibles. Notons que les travaux majeurs sont mal définis dans la réglementation. La ville donne un permis de construction sur la base que le projet a le sceau d'un architecte au devis et conséquemment, la mise en accessibilité du bâtiment devient la responsabilité des architectes. Si l'architecte ne le sait pas ou qu'il ne l'a pas fait, ça peut très bien ne pas être accessible. Important, il faut se plaindre à la Régie du bâtiment du Québec quand on aperçoit un nouveau commerce qui a un deuxième étage avec logement ou commerce qui n'est pas accessible. Quand on parle de petits commerces, C'est de la responsabilité de la ville de réglementer. Cette dernière a adopté le Code de construction du Québec. En somme, elle doit s'assurer elle-même du respect de la mise en accessibilité pour les petits bâtiments. Mentionnons qu'il y a peu d'inspecteurs sur le terrain. Sophie Langteau suggère qu'on travaille ensemble sur une compréhension du Code et peut-être même décider ce qu'on pourrait faire pour favoriser la mise en accessibilité des commerces. Ce mandat peut être référé au comité AU Montréal. François Bourbonnière dit avoir écouté attentivement les histoires et les problèmes de tous et toutes. Il rappelle qu'il est possible d'appeler Execo pour être écouté et être aidé toute l'année durant. Le président en profite pour rappeler qu'il est possible de joindre un comité thématique et d'y participer et d'en apprendre plus sur les droits tout au long de l'année. Le président invite maintenant l'Assemblée à s'exprimer sur l'adoption du rapport d'activité et du plan d'action. Proposition AGA 21-06-08. Il est proposé par Serge Bédard, appuyé par Marc Gauthier, d'adopter le rapport d'activité 2016-2017 et le plan d'action 2017-2018 tel que présenté, ainsi que le rapport des recommandations de la journée d'études des dossiers 2017. Adopté à l'unanimité. 13. Conseil d'administration 2017-2018. 13.1. Nomination d'une président, présidente et une secrétaire d'élection. Proposition AGA 21-06-09. Il est proposé par Lise Dugas, appuyée par Caroline Théberge, de nommer M. Mathieu Franqueur et M. Benoît Rassette, respectivement président et secrétaire d'élection. Adopté à l'unanimité. 13.2. Mise en candidature. Le président rappelle les règles de mise en candidature. Il rappelle également que le conseil d'administration d'Execo est constitué de 9 administrateurs et que le 2/3 de ses membres doit avoir une déficience physique. Cette année, 5 administrateurs poursuivent leur mandat et 4 administrateurs sont en élection. Le président indique qu'une candidature par procuration est déposée, soit celle d'Alexandra Damour. Administrateurs en cours de mandat, Dominique Marsan, Caroline Lapensée-Savaria, François Bourbonnière, Patrick Desjardins. Maude Massicotte. Administrateurs dont le mandat de 2 ans est terminé, Caroline Goyette, Martin Junot, Sophie Langteau, Claude Prévost. Le président ouvre la période de mise en candidature. Ginny Racine, appuyée par Caroline Théberge, propose Caroline Goyette. Caroline Lapensée-Savaria, appuyée par Han Bui, propose Claude Prévost. Martin Junot, appuyé par Lise Dugas, propose Alexandra Damour. Caroline Théberge, appuyée par Marc Gauthier, propose Ginny Racine. François Bourbonnière, appuyé par Caroline Lapensée-Savaria, propose Sophie Langteau. Gaëtan Léger, appuyé par Selma Gaizi, propose Dominique Riel. Ginny Racine, appuyée par Dominique Riel, propose Paul-Sylvine Kendo. Le président ferme la période de mise en candidature. Proposition AGA 21-06-10. Il est proposé par Patrick Desjardins, appuyé par Marc Gauthier, de fermer les mises en candidature. Adopté à l'unanimité. Puis, le président d'élection s'adresse aux personnes proposées afin de savoir si elles acceptent d'être candidates. Claude Prévost accepte, Caroline Goyette accepte, Alexandra Damour accepte, par procuration, Sophie Langteau accepte, Dominique Riel accepte, Paul-Sylvine Kendo accepte, Ginny Racine refuse. 13.3. Élection des administrateurs. Le président invite les candidats à se présenter et à expliquer succinctement les raisons qui les poussent à briguer une place au conseil d'administration d'Execo. Le président indique qu'on doit passer aux élections, puisqu'il y a davantage de candidates et candidats que le nombre de postes vacants. Tous les mandats sont d'une durée de 2 ans. Les membres élus sur le conseil d'administration sont Caroline Goyette pour un mandat de 2 ans, Claude Prévost pour un mandat de 2 ans, Alexandra Damour pour un mandat de 2 ans. Sophie Langteau pour un mandat de 2 ans. Proposition AGA 17-06-11. Il est proposé par Caroline Lapensée-Savaria, appuyée par Caroline Théberge, d'approuver le résultat de l'élection, adopté à l'unanimité. 14. Autre question. Caroline Goyette et Claude Prévost remercient l'Assemblée pour leurs élections. Caroline La Pensée Savaria rappelle qu'on peut demander de l'aide à Execo, mais qu'on peut aussi s'engager avec Execo. Sophie Lanctot invite les gens à se promener, à profiter de l'été, à observer ce qui pourrait être des obstacles et ne pas hésiter à les signaler. Madame Turcotte remercie ensuite le président ainsi que le secrétaire d'Assemblée. Elle remercie également les aides physiques pour leur travail, félicite les personnes qui ont été élues. Enfin, elle rappelle qu'un souper à l'intention de tous les membres et du personnel suivra l'Assemblée générale. 15. Levée de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée suggère d'approuver la levée de l'Assemblée. Proposition AGA 17. 06 15. Il est proposé par Patrick Desjardins, appuyé par Marc Gauthier, d'approuver la levée de l'Assemblée à 16h53. Adopté à l'unanimité. Signature sur version officielle, Mathieu Francoeur, président de l'Assemblée. Signature sur version officielle, Benoît Rassette, secrétaire d'Assemblée. J'atteste le fait que le rapport d'activité ainsi que les états financiers ont été présentés et adoptés lors de cette Assemblée. Signature sur version officielle, membre du conseil d'administration d'Execo. Mot de la présidente du conseil d'administration et de la porte-parole jeunesse. Mot de la présidente du conseil d'administration. Chers membres, nous vous présentons ici un bilan d'une année sous le signe du renforcement de notre gouvernance et de la poursuite de nos efforts pour faire avec la communauté une société plus juste et universellement accessible. Au gouvernail, droit devant, cette année, les administratrices et administrateurs se sont beaucoup investis au comité gouvernance du Conseil. L'objectif de ce comité est de mettre en place les outils et éventuellement la culture afin de développer et de maintenir une gouvernance solide. Le comité est composé de 6 administratrices et administrateurs, de la directrice générale et du comptable. Il s'est réuni à 5 reprises. Lors de ces rencontres, les membres ont amorcé une réflexion sur les différents aspects, comme par exemple le fonctionnement du conseil, l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration et l'évaluation des administrateurs. Dans le but d'avoir plus de profondeur dans leurs réflexions, ils ont convenu d'être accompagnés par Madame Martine Sauvageau du Centre Saint-Pierre. Cette démarche a permis de constater qu'Execo tend vers une gestion participative, c'est-à-dire que l'opinion des membres, des administrateurs et travailleurs est prise en compte lors de prises de décision par la direction et l'organisme. En plus, le Conseil est préoccupé par la question de la relève sur le plan du membership. C'est pourquoi cette année a eu lieu la création du comité ambassadeur. Il est composé essentiellement de membres du Conseil, dont Maud Massicotte, qui agit à titre de porte-parole jeunesse pour Execo. D'ailleurs, grâce aux interventions de cette dernière, il a été possible de présenter Execo dans des centres de réadaptation ainsi qu'à des établissements scolaires. Revendiquer un meilleur transport collectif et adapté. Le Conseil a adopté une plateforme de revendications en transport adapté. Ces revendications sont présentées par des membres à des gestionnaires du transport adapté. Le Conseil prévoit aussi déployer en 2018-2019 une plateforme de revendications pour le réseau régulier du transport collectif. Engagez-vous pour le communautaire. Comme vous le savez, les organismes communautaires sont sous-financés et surtout c'est le cas pour les organismes de défense collective des droits. Cette année, Execo a participé à plusieurs activités pour dénoncer cet état de fait. Nous avons d'ailleurs recueilli 10% des signatures de la pétition provinciale. Malheureusement, au dernier budget, Couillard avait des bonbons pour tout le monde, mais pas pour le communautaire. Il faut continuer le combat afin qu'aux prochaines élections, les partis s'engagent à majorer le financement des groupes en défense collective des droits. Execo, une force communautaire. Depuis quelques années, Execo s'implique dans les organismes du grand communautaire. Au fil du temps, ces organismes ont compris quelles étaient les batailles d'Execo pour que les personnes en situation de handicap soient respectées comme des personnes citoyennes à part entière. Cette complicité entre Execo et ces organismes s'est manifestée de manière tangible, notamment lors de l'occupation de la place Vauquelin pour demander à la ville de Montréal un service d'infologement. En effet, le Frappru, FRAPRU, ainsi que des comités logements sont venus appuyer Execo dans ses revendications. Et ce n'est pas fini. L'année 2017-2018 est marquée par la grande mobilisation des membres d'Execo, que ce soit dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, aux activités du Frappru, FRAPRU, au comité transport, etc. Les membres répondaient présents. Et Execo en est très fier. Chaque personne a sa façon de s'impliquer et de contribuer à faire avancer la cause. Que ce soit en devenant membre, en commentant, proposant ou en contribuant à la prise de décision par des moyens électroniques ou les réseaux sociaux, en signant des pétitions, même en initiant une activité de mobilisation, etc. L'année 2017-2018 étant terminée, il est maintenant temps de recharger non seulement nos batteries de nos fauteuils roulants, mais également celles de nos bodies. Car avec les élections provinciales, l'automne s'annonce chaud, pour ne pas dire brûlant. Je tiens finalement à remercier l'ensemble des administratrices et des administrateurs pour leur engagement avec Execo ainsi que les personnes employées pour leur dynamisme et les membres pour leur fidèle participation. Bel été et en santé, amicalement. Dominique Marsan, présidente du conseil d'administration. Mot de la porte-parole jeunesse. Chers membres, je suis Maud Massicotte, membre d'Execo depuis novembre 2015. J'ai commencé à m'impliquer de façon plus active en juin 2016 où vous m'avez nommé membre du conseil d'administration. Je tiens d'ailleurs à vous remercier de m'accorder toute votre confiance pour exercer ce rôle. Durant la première année de mon mandat, j'ai étudié les différents dossiers et observé comment l'organisme opérait avec l'équipe de travail et ses membres. Tout cela m'a permis de faire une réflexion sur la place des jeunes militants d'Execo et comment nous pouvons avoir une meilleure visibilité dans la société. J'ai décidé de passer à l'action. En mars 2017, j'ai été à Bruxelles, dans le cadre de mon rôle d'ambassadrice pour le projet Jeunesse 375e Montréal, et j'ai eu la chance de faire deux représentations d'Execo dans deux différents organismes qui travaillent avec des personnes ayant un handicap. Les représentations ont été très appréciées, car il n'existe pas d'organisme comme la nôtre à Bruxelles. Par la suite, je me suis impliqué en suivant des formations pour approfondir mes compétences d'administratrice au Conseil. Je fais partie du comité gouvernance et ambassadeur et ambassadrice d'Execo. Je suis également présente au comité d'accessibilité du directeur général des élections du Québec. J'ai commencé à être présente dans des représentations dans divers événements et organismes en tant que porte-parole d'Execo, centre de réadaptation, école spécialisée, partenaire financier et instance politique non partisane. Je partage le rôle de porte-parole d'Execo avec François Bourbonnière pour la campagne du mouvement FAS, P-H-A-S, Nous sommes et nous voulons, qui se déroule de mars à juin 2018. En constatant l'importance que prenaient mes diverses implications, le conseil d'administration a décidé de me nommer porte-parole jeunesse d'Execo en novembre dernier. Dans ce document, vous aurez l'occasion de voir le bilan de mes démarches et actions. Comme porte-parole de jeunesse d'Execo, je souhaite agir avec vous pour que nos droits soient reconnus et aussi pour rendre disponible l'information sur les services, les droits et recours en général. Je reste toujours disponible pour répondre à vos questions, pour discuter ou vous soutenir dans votre citoyenneté active. Au plaisir de collaborer avec vous. Passez un bel été. Maud Massicotte, porte-parole jeunesse d'Execo. Execo, rappel de la mission. Execo est un organisme montréalais se consacrant depuis 1980 à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Formation, concertation, représentation et mobilisation. La promotion et la défense des droits chez Execo se réalisent par des activités avec les membres qui peuvent prendre différentes formes. Information, formation, sensibilisation, représentation, concertation, collaboration, mobilisation, moyen de pression, revendication. Execo développe ses dossiers en concertation avec d'autres organismes de personnes ayant des limitations fonctionnelles. De plus, il représente l'ensemble de ces personnes auprès de plusieurs instances publiques. Il est donc appelé à porter des revendications provenant d'autres associations. Sur les mobilisations plus larges, Execo s'allie aux grands communautaires et aux autres groupes de la société civile et ce pour porter des revendications au niveau local, régional et provincial. Mot de la directrice générale. Bonjour à vous toutes et tous. L'année 2017-2018 a été marquée par une incroyable mobilisation des membres aux activités de défense collective des droits. Vous avez contribué de façon soutenue et vous avez fait preuve d'un réel engagement à bâtir une société plus inclusive. Le savoir et les expériences personnelles que vous avez si généreusement partagées aux travailleurs d'Execo font en sorte que les revendications sont toujours davantage pertinentes et solides. Grâce à votre implication, Execo a davantage rayonné dans la communauté montréalaise. Pensons à l'intervention de notre présidente à une assemblée du FRACA, F-R-A-C-A, qui réunissait environ 500 personnes, ou bien aux représentations faites par des membres au FRAPRU, F-R-A-P-R-U, et au comité logement, voire même aux représentations faites par notre porte-parole jeunesse dans les centres de réadaptation, etc. Plus Execo est actif dans la communauté, plus ses revendications seront portées par d'autres organisations et plus nos droits seront reconnus. Je profite également de l'occasion pour souligner la qualité du travail accompli par les travailleuses et travailleurs d'Execo. Ceux-ci ont fait preuve de ténacité et de perspicacité dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de stratégies de défense collective des droits. Souvent débordée, l'équipe a quand même mis les bouchées doubles. Dans ces conditions, vous serez d'accord avec moi que la venue d'un soutien financier additionnel de la part du SACAIS, S-A-C-A-I-S, serait grandement nécessaire afin de rémunérer adéquatement les membres de l'équipe, voire même faire grandir l'équipe. En lisant le plan d'action 2018-2019, vous remarquerez qu'Execo poursuit les mêmes combats. Avec les élections provinciales qui se tiendront le 1er octobre, l'automne sera une période encore une fois très engageante sur le plan de la défense collective des droits et des revendications. Execo entend bien faire valoir les besoins et les droits des personnes en situation de handicap auprès des candidats pour que les politiques publiques déployées par le prochain gouvernement y répondent finalement bien. Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport, mais aussi de ce plan de travail qui, sans votre participation, n'a pas de sens. Je tiens à vous souhaiter une belle période estivale et surtout, faites-le plein d'énergie, car nous en aurons besoin avec les luttes vigoureuses à mener. Merci à vous tous et bonne assemblée. Marie Turcotte, directrice générale.